RCF. Bonjour chers auditeurs, vous êtes à l'écoute de Paroles Protestantes. Comme chaque premier dimanche du mois, nous parlons de la prière selon la demande des disciples à Jésus. Seigneur, enseigne-nous à prier. Jésus commence son enseignement par Notre Père. Nous verrons donc comment est-il possible de considérer Dieu le Créateur comme notre Père et ce qu'implique le fait d'être fille ou fils du Père Céleste. Nous sommes ensemble durant 25 minutes.
Paroles Protestantes sur RCF Anjou.
C'est Jean-Pierre Vaninet qui vous présente cette émission en compagnie de Daniel et Bernard Delépine et de Jean-Didier Rousseau. Daniel, vous êtes active à la maison de prière, la maison des parfums à Angers. Jean-Didier, vous êtes responsable d'un groupe de prière et d'études de la Bible à Chemélier.
Oui.
Bernard, vous êtes le pasteur de l'église protestante baptiste située 17 rue du Colombier à Angers et vous êtes aumônier protestant au CHU et au Sésame.
C'est bien ça.
Bonjour à vous tous.
Bonjour.
Bonjour.
Alors que les disciples demandent à Jésus de les enseigner à prier, il commence son enseignement par « Notre Père qui est aux cieux ». N'est-ce pas un peu étrange comme entrer en matière pour s'adresser à Dieu, que l'on voit plutôt spontanément comme le créateur de l'univers ? Qui veut répondre ? Bernard ?
Oui, effectivement c'est un peu étrange, mais c'est tout de même le modèle que Jésus nous donne. Tout au long de 3 ans qu'il passe avec ses disciples, Jésus les enseigne sur la relation de proximité qu'ils doivent avoir avec Dieu. Là où les Juifs avaient une certaine distance, pour ne pas dire une certaine peur de Dieu. Cette peur est mentionnée d'ailleurs très tôt dans la Bible, lorsqu'on lit le livre de l'Exode, au chapitre 20, je cite, « Tout le peuple entendait les coups de tonnerre, le son de la trompette et voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait à bonne distance. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous, toi !» et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle pas, sinon nous allons mourir. » Ce à quoi Moïse répondit, « Mais n'ayez pas peur, Dieu est seulement venu vous mettre à l'épreuve. » Alors nous voyons que dans le Premier Testament, le peuple d'Israël a pratiquement toujours voulu des intermédiaires entre eux et Dieu. Jésus vient donc révolutionner la pratique religieuse en proposant une proximité plus personnelle, plus paternelle avec Dieu.
Mmh, très bien. Mais pourquoi Jésus vient révolutionner leur pratique ancestrale, Jean-Didier ?
Oui, eh bien, écoutez, c'est très simple. Par définition, les disciples étaient en apprentissage auprès de lui, le maître. Durant 3 ans, Jésus leur a enseigné d'une manière de vivre qui plaît à Dieu et de comprendre des domaines sociétaux et spirituels. La prière faisait partie de cet apprentissage. Plus que des paroles, il leur enseigne surtout une attitude, la même attitude qu'il a lui-même avec son Père Céleste. Il leur dit en quelque sorte « Soyez mes imitateurs, ayez la même relation avec Dieu le Père que celle que j'ai ». D'ailleurs, il est très intéressant de lire les propos de Jésus à la fin de l'évangile de Jean au chapitre 20. Je le cite « Jésus dit à Marie, ne me touche pas car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » On voit là Jésus insistant sur son enseignement, celui que je considère comme mon Père est aussi le vôtre. Personnellement, je trouve cela vraiment excellent. Comme le dit Bernard, nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, mais à le considérer, parce qu'il le veut, comme un Père, on peut même dire comme un Père aimant.
Si je peux me permettre, ça me fait penser à l'interpellation concernant une prière adaptée du Notre Père qui commence chacune de ses phrases par « Comment dire ?»« Comment dire Notre Père qui est aux cieux, si tu ne le reconnais pas comme ton Père et si tu ne te reconnais pas comme son enfant ?» Dans l'émission du 3 novembre dernier, si vous vous rappelez, lors du sketch sur le Notre Père, la personne répond à Dieu qu'elle prie le Notre Père par habitude, sans chercher la signification de telle ou telle phrase. « Ça fait partie de la prière, c'est tout, » dit-elle. Sans vouloir culpabiliser personne, la prière du Notre Père est si souvent récitée que beaucoup n'intègrent pas le sens profond de chaque déclaration. Alors pourquoi dire « Notre Père » si tu ne le considères pas comme un père et si tu ne te considères pas comme son enfant ? C'est une vraie question.
Merci Daniel, mais ça ne va pas de soi de considérer Dieu comme père, non? Surtout si nous avons eu un père difficile à vivre. Bernard, vous voulez y répondre?
Oui, j'entends bien votre question Jean-Pierre, et il n'est pas très simple d'y répondre, surtout si l'image que nous avons de notre père terrestre est mauvaise. Si celui-ci a été autoritaire, violent, s'il a eu une préférence pour un frère ou une sœur, si on a été l'objet de rejets ou pire encore, d'attouchements ou de viols, c'est en effet autant d'obstacles pour venir vers Dieu et le prier en disant notre Père, en toute sérénité et en toute confiance. Il y a incontestablement besoin de guérison. En attendant que celle-ci s'opère, il est quand même possible de connaître la personnalité de Dieu par des lectures bibliques le concernant, par exemple.
Et en avez-vous à nous proposer?
Ah oui, pour reprendre le livre de l'Exode qui parle de Moïse, hein, donc c'est très vieux, au chapitre 34, nous voyons une des facettes de la personnalité de Dieu. Dieu dit de lui-même « Je suis un Dieu compatissant et de tendresse, bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. » Moi, je trouve ça vraiment extraordinaire et tellement fort. Je relis parce que c'est important d'avoir une juste perception de qui est Dieu le Père et ce depuis toujours. Donc je me permets de relire. Hein. Je suis, dit Dieu, je suis un Dieu compatissant et de tendresse, bienveillant, patient, d'une immense et fidèle bonté. Je manifeste ma bonté envers les hommes jusqu'à 1000 générations en supportant les péchés, les désobéissances et les fautes. Ce père-là, ce n'est pas le père tyrannique terrestre que nous avons peut-être subi durant notre enfance, ni le Dieu qui n'est là que pour punir. Mais il y a aussi un autre aspect de la personnalité du Père Céleste, plus méconnu celle-ci. C'est la part de la féminité de Dieu, affectueuse, consolatrice, protectrice.
Oui, vous trouvez? En tout cas, c'est une approche très intéressante. Daniel, vous qui êtes femme et maman, vous êtes d'accord avec cette idée?
Oui, bien sûr, tout à fait. Ça pourrait d'ailleurs faire l'objet d'une autre émission. Mais nous trouvons plusieurs versets qui en parlent dans le livre d'Ésaïe, surtout. Par exemple, où Dieu dit « Je prendrai soin de vous comme une mère le fait pour l'enfant qu'elle allaite, qu'elle porte sur la hanche et cajole sur ses genoux. Oui, comme une mère qui console son enfant, moi aussi je vous consolerai. » Et toujours dans Ésaïe au chapitre 49, le Seigneur dit « Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a porté? À supposer qu'elle l'oublie, moi je ne t'oublie pas. » Et en Matthieu, il y a un peu la même pensée avec Jésus qui dit aux habitants de Jérusalem « J'ai voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous n'avez pas voulu. » L'idée exprimée là est celle de rassembler et de protéger comme une mère le fait pour ses enfants.
La plupart des textes qui viennent d'être cités sont du Premier Testament. Mais Dieu n'aurait-il pas changé depuis la Genèse, Jean-Didier?
Eh bien, écoutez, justement pas. La personnalité de Dieu reste immuable au travers des siècles. C'est ce que souligne Jacques dans son épître. Il y a chez lui ni changement, ni ombre de variation, et Dieu dit de lui-même, par le prophète Malachie, « Je suis l'Éternel, je ne change pas ». Dieu le Père n'est pas changeant selon ses humeurs ou selon nos attitudes. Comme le dit Bernard, il y a des textes bibliques qui nous parlent de la personnalité de Dieu en tant que Père que nous avons besoin d'intégrer pour avancer dans la foi. Parmi les nombreux textes, je voudrais citer Jean, qui dans ses épîtres nous dit à plusieurs reprises « Dieu est amour, il est amour ». Ce n'est pas « il le sera si vous êtes sage ou si vous faites ce qu'il dit ». Non, non, il l'est, parce que ça fait partie de sa personnalité. Et puis même, s'il ne voulait pas l'être, il ne pourrait pas, ça fait partie intrinsèquement de lui. On trouve cette même idée avec Jésus. Paul disant à Timothée, « Si nous sommes infidèles, lui, Jésus, demeure fidèle, car il ne pourra jamais se renier lui-même. »
Merci Jean-Didier. Avant de poursuivre notre émission, écoutons maintenant le collectif « Cieux ouverts » nous interpréter le chant « Abba Père ». Restez avec nous, nous revenons dans quelques instants.
Bien avant.
Suite d'entre émission Parole protestante sur RCF Anjou, en compagnie de Daniel, Jean Didier et de Bernard. Nous parlons de notre filiation spirituelle. Qui dit notre père dit forcément enfant, fils et fille, sans quoi le terme n'aurait pas de sens. Qui veut nous parler de cette notion de fils ou de fille?
Oui, ben je veux bien Jean-Pierre.
Jean Didier, allez-y.
Souvent, les personnes, y compris des chrétiens, pensent que nous sommes tous les enfants de Dieu du fait que c'est lui qui a créé les humains. Bon, ok. Mais dans cette prière du Notre Père, il ne s'agit vraiment pas de ça. Il est notre Père spirituel, et nous sommes son fils et sa fille sur un plan spirituel. Pour me faire comprendre, permettez-moi de citer deux textes de l'Évangile de Jean. Au chapitre 1er, je transcris un peu pour faciliter la compréhension, « À tous ceux qui ont cru en la parole, qui est Jésus, à tous ceux-là, il est accordé le privilège de devenir enfants de Dieu. » Le texte nous dit que pour être considéré comme fils ou fille du Père céleste, il nous faut obligatoirement croire en Jésus. Enfin bon, lorsqu'il est dit croire, ce n'est pas juste « je crois que Jésus existe ». Non, non, c'est avoir vécu la nouvelle naissance. C'est ce que Jésus enseigne au chef religieux Nicodème au chapitre 3 de Jean. Je cite encore. « Vraiment, je te l'assure, lui dit Jésus, à moins de renaître d'en haut, personne ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui demanda, « Comment un homme déjà âgé peut-il naître de nouveau ?» Jésus répondit, « Ce qui naît de parents humains est humain. Ce qui naît de l'Esprit de Dieu est esprit. » Jésus dit que nous sommes des fils et des filles spirituelles du Père seulement après avoir vécu cette expérience de nouvelle naissance. Pour une meilleure compréhension, on peut aisément la comparer à la métamorphose de la chenille qui devient papillon. C'est le même animal, mais sa transformation, elle est radicale et lui permet de vivre autrement.
Si je peux juste revenir pour insister sur le verset, à tous ceux qui ont cru en Jésus, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Le terme traduit par privilège, qui est très riche en grec, peut aussi être traduit par il a accordé le droit de devenir enfant, qui est une forme juridique. D'ailleurs, traduit par pouvoir ou autorité, aussi, qui nous donne une position vis-à-vis des puissances du mal. Traduit encore ailleurs par liberté, pour signifier que nous sommes passés du statut d'esclave à celui d'homme et de femme libre. Ce qui vient aussi corroborer l'image de la chenille qui devient papillon.
Et c'est une belle image. Bernard, vous qui êtes pasteur, pourriez-vous nous en dire un peu plus ?
Oui, avec une autre notion biblique assez facile à comprendre, c'est celle de l'adoption. Lorsque des parents adoptent un enfant, celui-ci acquiert les mêmes droits et devoirs que les autres enfants. Il hérite en quelque sorte du nom et aussi des biens. Dans sa première lettre, l'apôtre Jean écrit « Voyez à quel point le Père nous a aimés, son amour est tel que nous sommes appelés enfants de Dieu, et c'est ce que nous sommes réellement », affirme l'apôtre. Dieu le Père nous aime tellement qu'il a fait de nous des fils et des filles. Paul, dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, en parle aussi. C'est l'Esprit Saint, dit-il, qui atteste à notre esprit, « Oui, tu es enfant de Dieu ». Et poursuivant, il affirme, « Si nous sommes enfants de Dieu, alors nous sommes aussi ses héritiers ». Nous aurons donc part au trésor de Dieu, exactement comme le Christ. Et écoutez la fin, parce que c'est important. Il continue en disant, « Et tout ce que Dieu donne à son Fils, à Jésus donc, sera aussi nôtre. » D'autres traductions disent, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ. » Bon, je trouve que ces deux termes assez forts, héritier de Dieu, co-héritier du Christ, c'est pas rien. Hein. Et ceci, c'est en opposition, en ce temps-là en tout cas, aux esclaves qui faisaient aussi partie de la maison, mais qui n'étaient pas des héritiers. Personnellement, je trouve cette idée très joyeuse et enthousiasmante. Encore faut-il vivre au quotidien comme un fils et non comme un esclave.
Ben justement, puisque vous en parlez, comment est-ce que l'on vit le fait d'être fils et fille du Père Céleste ?
Je pense qu'il y a tout d'abord à être reconnaissant. Nous qui n'étions pas des fils et des filles, il nous offre cette position, ce droit, alors que nous n'avons aucun mérite. Avoir de la reconnaissance est la moindre des choses. Mais on peut aller plus loin, en ayant de l'amour pour notre Père Céleste. Rappelez-vous ce dialogue entre un religieux et Jésus, rapporté par Matthieu. « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ?» Jésus lui répond « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Les fils et les filles sont appelés à aimer le Père Céleste. Là aussi, on pourrait dire que c'est la moindre des choses.
Oui, mais ce n'est pas très simple, aimer Jésus qui nous est proche de par son humanité, ça va encore. Mais Dieu le Créateur, même s'il est notre Père, c'est un peu plus compliqué, non ?
Ah ben, ça c'est pas faux. Et il est vrai qu'aimer Dieu de tout son cœur et de toute son âme et de toute sa pensée peut paraître non seulement exigeant, mais tout simplement impossible. On peut vous répondre, Jean-Pierre, par deux suggestions. Plus on vit intimement, étroitement avec le Père, plus on le connaît et plus on apprend à l'aimer. Nous serons tous d'accord autour de cette table pour dire qu'il n'est pas évident, voire impossible, d'aimer quelqu'un avec qui nous n'avons pas ou très peu de relations. Pour aimer le Père Céleste, je dirais qu'il faut avoir une vie sociale avec lui, le rencontrer, discuter avec lui, vivre avec lui une certaine proximité. Prier le Notre Père, nous en bas, sur la terre, en pensant que lui est au ciel sur son trône, et qui ne se soucie pas de nous, ben ça aide pas à la proximité. Pas plus d'ailleurs, si nous trouvons que Dieu est davantage un juge qui sanctionne plutôt qu'un père qui aime. L'autre conseil peut paraître un peu niais, un peu simple, mais c'est efficace, par expérience je peux vous le dire. Si vous n'aimez pas Dieu le Père, faites cette prière toute simple. Père, je ne t'aime pas. On pourrait dire, Père, je ne sais pas comment t'aimer. Si tu veux que je t'aime, eh bien, que le Saint-Esprit vienne me remplir d'amour pour toi. Faites cette prière jusqu'à ce que vous réalisiez qu'il l'a exaucée. Ça peut paraître un peu brutal, un peu curieux même, mais le Père préfère l'honnêteté à l'hypocrisie, et de toute façon, il connaît nos cœurs.
Pour apporter un peu d'eau au moulin à ce que dit Jean Didier, qui a cité tout à l'heure Romains 8 concernant notre adoption, en lisant un peu plus loin, Paul dit « Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu, car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Et il réaffirme dans sa lettre aux Galates, « Pour prouver que vous êtes bien ses enfants, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit qui crie « Abba, ô mon Père ». Abba, c'est le terme affectueux qu'emploie Jésus dans le jardin de Gethsémané, alors qu'il lui demande « s'il est possible de ne pas boire la coupe de souffrance de la croix. Abba, Père, tendre Père, Papa du ciel, comme l'appellent certains chrétiens. Donc, pour répondre à votre question, Jean-Pierre, oui, nous pouvons affectueusement aimer Dieu le Créateur, notre Père, ou notre Papa céleste. Ça dépend surtout de la fréquence et de la qualité de la relation que nous entretenons avec lui.
Parole protestante sur RCF Anjou.
Nous disions donc que le Père Céleste attend de nous des attitudes un peu similaires aux enfants vis-à-vis de leurs parents. Qui veut répondre, Jean-Didier ?
Oui. Nous avons parlé d'aimer Dieu en tant que Père Céleste tout à l'heure. Nous pourrions ajouter que nous devrions aussi nous comporter comme des enfants. Je m'explique. En évoquant la parabole dite du Fils prodigue, que l'on trouve dans l'Évangile de Luc au chapitre 15, si nous nous attardons sur le fils aîné, au retour de son frère qui a dilapidé la moitié de l'héritage en faisant n'importe quoi, il se fâche, il ne veut même pas aller à la fête organisée pour le retour de son frère. Il reproche même à son père de ne pas lui avoir donné, ne serait-ce qu'une chèvre pour faire la fête avec ses amis. Devant le reproche de son fils aîné, le père répond « Mais qu'est-ce que tu viens me reprocher ? Tu as tout à ta disposition, il fallait te servir. » C'est quand même ballot de tout posséder comme un fils et de même pas oser en profiter. le fils aîné s'est comporté plus en esclave qu'en fils, et le père souhaite que nous soyons des fils et des filles pour lui, et non des esclaves.
Ça me rappelle l'histoire authentique d'une missionnaire en Afrique qui a adopté plusieurs enfants. L'un d'eux, arrivé dans la maison depuis plusieurs semaines, demandait toujours s'il pouvait prendre un verre de coca dans le frigo. Sa mère adoptive a dû lui faire comprendre que maintenant qu'il était un fils de la maison, il pourrait se servir sans demander la permission, au même titre que les enfants légitimes. Je me demande si parfois on ne réagit pas comme cet enfant, en orphelin spirituel, plutôt que comme fils de la maison céleste. L'apôtre Paul, écrite aux Colossiens, « Par votre union avec lui, avec Jésus, vous avez tout reçu pleinement. »
Bernard, vous souhaitez ajouter quelque chose ?
Oui, je voudrais juste ajouter que, en faisant de nous des fils et des filles, le Seigneur nous fait aussi rentrer dans sa grande famille. De ce fait, nous avons des milliers de frères et de sœurs. C'est d'ailleurs une désignation très courante dans le Nouveau Testament. Mais c'est important d'en prendre conscience. Nous avons besoin des uns des autres, ne serait-ce que pour louer et adorer Dieu, pour nous exhorter, pour nous encourager mutuellement, pour ne pas nous enfermer non plus dans nos conceptions théologiques, conscients que nous n'avons jamais toute la vérité à nous seuls. Oui, nous avons besoin des autres, y compris des chrétiens d'autres églises.
Merci Bernard. C'est la fin de notre émission, nous allons terminer par une petite prière.
Je vais lire des déclarations du roi David tirées du psaume 103. Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, qui guérit toutes mes maladies, qui me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur. Comme un père aime ses enfants, le Seigneur aime avec tendresse ceux qui le respectent.
Merci Daniel, merci à vous tous. Si je devais retenir deux idées fortes de nos échanges, ce serait que pour prier notre Père, il faut que nous vivions une naissance spirituelle et une proximité quotidienne avec ce Père céleste, que notre attitude devrait être celle d'un héritier et non celle d'un esclave. Si vous avez une question concernant le contenu de cette émission, vous pouvez l'envoyer à l'adresse mail suivante eglisebaptiste.angers@gmail.com. Retrouvez notre émission Parole Protestante en podcast sur RCF Anjou. Bonne prière et à bientôt.